الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الحادي عشر من شهر شوال لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الحادي عشر من كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 16 juillet 2016 et ceci est le 11e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de son auteur, le très célèbre et émérite savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre sur le prêche, l'appel à Allah, inviter les gens à la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu le premier verset, puis le hadith. Il nous reste dans ce chapitre un hadith, le hadith de Sahl ibn Sa'din al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu. Nous avons vu l'importance de prêcher Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons même conseillé de lire un écrit, un ouvrage très bénéfique dans ce sujet, rédigé et écrit par le noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, intitulé Manhaj al-Anbiya fi ad-da'wati ila Allah fihi al-hikmah wa al-'aql. L'appel à Allah, la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah contient la sagesse et la raison. Et c'est vraiment un livre riche et bénéfique. Celui qui est arabophone, il doit avoir ce livre et l'étudier ou le lire bi'idhnillah ta'ala. Qala rahimahullah wa lahuma al-Bukhari wa Muslim an Sahl ibn Sa'd ay al-Sa'idi radiyallahu ta'ala an anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallama qala yawma khaybar la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها أو أيهم يعطاها. حديث de Sahl رضي الله عنه. Il nous dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit le jour de Khaybar, je vais donner demain la bannière un homme. Ya akhi. Akhi. Tu es dans un das, akhi. Non, non, tu nous déranges. C'est pas un adab. Jazakallah khairan. Donc, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais donner la bannière demain un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé d'Allah et de son messager. Par sa cause, Allah va donner la victoire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et Khaybar, c'est un endroit qui porte toujours le même nom à cette époque, qui est vers le nord du Hijaz. Et le Hijaz, c'est la région où il y a la ville de Médine. Et dans l'an 7, la septième année de la Hijra, il y a eu cette fameuse expédition connue sous le nom de Ghazwat Khaybar. Et Khaybar, c'était une contrée qui était riche en palmiers. Il y avait les palmeraies avec beaucoup de dattes. La terre était fertile. Et les gens qui vivaient à cet endroit étaient des gens de religion juive. Ils étaient les juifs. De la tribu de Banu Nadir. Car à Médine, il y avait trois tribus juives. Il y avait Banu al-Nadir, Banu Quraïda et Banu Qaynuqa'. Celui qui lit la Sira va voir ce qui s'est passé avec ces trois tribus. Parmi lesquelles Banu al-Nadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec eux un pacte. Et que s'il y avait un sang qui était coulé par erreur, ils devaient eux aussi payer avec lui le prix de ce sang. Quand le prophète est allé les voir, car cette chose a eu lieu, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé d'attendre dans un endroit. Puis, Ils se sont concertés et ont comploté pour aller assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lequel ils avaient un pacte. Quand le prophète a reçu la révélation sallallahu alayhi wa sallam, il s'est écarté d'eux, a appelé ses compagnons et a assiégé tout ce peuple de Banu Nadir. Et c'est de cela qu'Allah parle dans surat Al-Hashr, l'Exode. Et puis, à la fin, ils se sont mis d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quitter leur maison et laisser leur bien, car ils ont voulu l'assassiner. C'est quelque chose de gravissime, d'autant plus qu'ils avaient un pacte avec lui. Ils lui ont dit, nous acceptons de quitter nos demeures et d'aller vivre ailleurs, et nous te laissons tout ce que nous possédons ici. Puis ils se sont divisés en deux. Certains sont allés vivre à Khaybar, d'autres sont allés vers la région du Sham, pas loin de la Syrie. Plus tard, dans la 7e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ordonner aux sahaba de conquérir Khaybar. Et c'est là que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la u'tiyanna dhayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Je vais remettre la bannière demain à un homme aimant Allah et son messager, aimé par Allah et son messager. Par lui, Allah accordera la victoire. De quoi est-ce que l'on parle quand il dit la bannière? Car lorsque les sahaba radiyallahu anhum combattaient, il y avait toujours un compagnon qui avait cette mission de tenir la bannière. Et la bannière, c'était le drapeau qu'il devait tenir avec la main levée. Et les compagnons radiyallahu anhum avaient toujours ce drapeau, au point où dans une des batailles, un des compagnons, on lui a coupé son bras, puis il a ramassé la bannière avec l'autre bras. On lui a coupé, puis il a ramassé avec ce qui lui restait, il la tenait au maximum. Car cette bannière, c'est derrière celle-ci que les musulmans se réunissent. Et donc, donner la bannière à quelqu'un, c'est montrer son importance. Il s'agit ici de Ali radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'époux de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, qui a eu ses deux enfants connus, Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhi sahabati ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ses compagnons et leur donne cette immense information. Demain, je vais remettre la bannière de Khaybar, lorsque vous allez vous y rendre pour la conquête, à un homme aimant Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle après la révélation qui lui est faite. Il reçoit la révélation. Yuha ilayhi anna hadha ar-rajul alladhi yatakallamu anhu yuhibbu Allah wa rasuluhu, ay annahu sadiq. Subhanallah. Ya laha min tazkiyah. Regardez cet éloge. Il reçoit la révélation, on l'informe que cet homme à qui il va remettre cette bannière aime Allah. C'est-à-dire, il est véridique. Le prophète témoigne, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais c'est Allah qui lui fait la révélation. Il aime Allah et son messager, et plus encore, le but recherché. Wa huwa mahboub ila Allah wa rasoulih. Il est aimé d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première bonne annonce. La deuxième, yaftahu Allahu ala yadayhi. Allah, par lui, va accorder la victoire aux musulmans sur le genre de Khaybar. Et donc, c'est une alam min a'lam min nubuwa, un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète, la veille, sallallahu alayhi wa sallam, informe les compagnons qu'ils vont avoir la victoire avec cet homme dont on parle ici. Et le lendemain, il y a eu cette victoire. Et dans d'autres batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la bataille de Badr, juste avant la bataille de Badr, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à tel endroit, telle personne va tomber, à tel endroit, telle personne va tomber, à tel endroit, telle personne va tomber, en citant les têtes de Quraysh, les polythéistes, ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, à la bataille de Badr, exactement aux endroits indiqués, les têtes dont il a parlé sont tombées. Sallallahu alayhi wa sallam. Un messager d'Allah. Mu'ayyad, muwaffaq, yuha ilayh, hudiya ila sirat al-mustaqim. il est assisté par Allah, il reçoit la révélation, il est guidé vers le droit chemin. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Fabata an-nasu yadukuna laylatahum. Les gens ont veillé cette nuit. Ayakhudun yatanaqashun manhum la'allahum alladhi la'allahu kadha la'allahu fa'ala kadha la'allahu man qala kadha. Ils se sont mis à chercher. Wa fi hadha hirs as-salaf 'ala al-fada'il. Ils se sont mis à chercher qui est cette personne. C'était tellement important pour eux. Sahaba radiyallahu anhum. Regardez bien. Qala Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Sheikh Abd al-Razzaq a dit c'était tellement important qu'ils ont oublié l'histoire de la conquête et qu'ils allaient avoir la victoire et le dessus. Et à Khaybar, croyez-moi, il y a des richesses. Au point où quand Khaybar a été conquis, il n'y avait plus de pauvres chez les Sahaba radiyallahu anhum. Et on ne savait même plus quoi faire avec les richesses. Hein? Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal va accorder la victoire par cet homme-là, et juste avant il a dit que cet homme-là est aimé par Allah et son messager, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Ma ahbabtu l'imara illa yawma idh. Je n'ai jamais aimé l'autorité et être le maître ou le chef à l'exception de ce jour. Les sahaba radiyallahu anhum n'aimaient pas être commandants, n'aimaient pas les responsabilités, ils les fuyaient, ils se cachaient, pour certains d'entre eux, ils se cachaient, et on les appelait, c'est toi, parce que tu es apte à le faire, contrairement à nos jours, où tous les gens courent vers les responsabilités et vers le commandement, sur lequel ils rendront des comptes à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Omar a dit, je n'ai jamais aimé le commandement, à l'exception de ce jour. Pourquoi ? Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui est aimé par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on a témoigné qu'il est sincère, il aime Allah, tabaraka wa ta'ala, et il aime son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et croyez-nous, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de très méritoire. Fabat an-nasu yadukuna laylatahum. Les gens ont passé cette nuit à chercher. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, les 70 000 qui entreront au paradis. Qu'est-ce que les gens ont fait après avoir entendu cette information? Ils se sont mis à discuter et à rechercher qui est cette personne. فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Peut-être qu'ils sont ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont rien associé à Allah. فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَاحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ils sont peut-être ceux qui ont accompagné le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pareil ici. Qui est cet homme qui est aimé par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que s'est-il passé par la suite? Que s'est-il passé par la suite? فَبَاتَ النَّاسِ يَدُكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. Ils ont passé cette nuit à se demander qui est-ce qui va recevoir et qui va avoir le privilège de recevoir, de porter cette bannière à la main. En réalité, cette partie du hadith est très importante. Parce qu'ici, on a dit que cet homme-là est aimé par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aime Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit, « Wa hadha tatmimu l'iman. » On a ici parler de quelqu'un qui a complété sa foi. Il a complété sa foi. Il a aimé Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a aimé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et a œuvré en ce sens, en mettant en pratique ce qu'implique aimer Allah et aimer son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au point où il a gagné ce résultat tant recherché qui est d'être aimé par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hada huwa at-tawhid. C'est ça même le tawhid. Et pour cela, certains salafs, certains vieux prédécesseurs disaient « Laysa sha'nu an tuhibba, walakinna sha'na kulla sha'ni an tuhab. » L'important n'est pas que tu aimes, mais l'important, le vrai, le plus important, c'est que tu sois aimé. Existe-t-il quelqu'un de musulman qui dit « Je n'aime pas Allah et son prophète » sallallahu alayhi wa sallam? Avez-vous déjà vu un innovateur dire je n'aime pas Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ils disent tous on aime Allah, on aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'important c'est que tu sois aimé. La simple prétention n'est pas suffisante. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Et cela nous montre le mérite de ce compagnon qui est cité dans ce hadith. Et imaginez-vous un peu l'état des compagnons. Ils ont passé toute cette nuit et chacun d'entre eux s'est dit « J'espère que c'est moi ». Au point où Omar radiallahu anhu a dit « Je n'ai jamais aimé avoir le commandement sauf ce jour ». Subhanallah. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très grand et de très important à leurs yeux et chez Allah subhanahu wa ta'ala. Yaftahu Allahu ala yaday. Par cet homme-là, Allah Azza wa Jal va donner la victoire à la communauté musulmane sur le peuple de Khaybar. Donc, le lendemain, que s'est-il passé? Falamma asbahu, lorsqu'ils sont arrivés au matin, radaw ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés voir le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum yarju ayyutaha. Chacun avait l'espoir qu'il soit celui dont il a parlé hier, dont le prophète a parlé la veille, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont tous venus. Imaginez-vous, tous les sahaba sont arrivés, en tout cas ceux qui ont entendu cette information et qui étaient présents ce jour-là, sont arrivés le matin de Khaybar et ils ont attendu. Chacun se disait, c'est peut-être moi, j'espère que c'est moi. Hein? Et un homme qui n'était pas là, qui n'est pas venu, sera celui à qui on va donner cette bannière. فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où est Ali, fils de Ali, fils de Ibn Abi Talib? Donc Ali qui est son cousin. Il n'était pas là. Al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, Al-Sheikh Salih al-Fawzan ont pris de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala que lorsque tu cherches à obtenir quelque chose, tu dois certes faire les causes, mais ne pas t'attacher à ces causes que tu fais pour atteindre un but recherché. Parce que il se peut que tu fasses les causes à la recherche de quelque chose, mais ne l'atteigne pas. Ici, tous ces gens-là ont fait la cause. Radaw ala Rasulillah. Radaw, c'est-à-dire kharaju fi sabah. Lan al-ghudu huwa al-khuruju sabahan wa al-rawah al-khuruju masaan. Ils sont sortis le matin et ils ont tous attendu. Ils se sont préparés, ils ont fait les causes. Que s'est-il passé? Aucun d'entre eux n'a reçu cette bannière. Qui est-ce qui l'a reçu? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. C'est d'autant plus étonnant lorsque l'on voit que Ali ibn Abi Talib était malade. Il n'avait pas n'importe quelle maladie, il avait la conjonctivite. La conjonctivite, c'est la maladie qui frappe les yeux. Et elle était tellement forte que dans des versions authentiques du hadith, on dit que Ali radiallahu anhu ne voyait plus rien. Radiallahu ta'ala anhu. La conjonctivite, en arabe, on appelle ça Ar-Ramad. Ar-Ramad. Et l'homme qui est atteint de la conjonctivite, on appelle Ar-Ramid. Man usiba bir-Ramad. Wa huwa al-marad al-ma'ruf fi al-aynayn. Faqila huwa yashtaki 'aynayhi. Puis les compagnons ont dit, il se plaint d'un mal dans ses yeux. Il est malade. Et dans l'autre version, on sait que c'est la conjonctivite précisément. Hein, les yeux collants, les yeux rouges, ça démange. Ça nous empêche d'ouvrir et de fermer les yeux. Pour lui, elle était tellement forte qu'il ne voyait plus rien. Dans la version de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arsala Salamata ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu liya'tiya bi'aliyin radiyallahu anhu, a envoyé le compagnon appelé Salama ibn al-Aqwa' et lui a dit d'aller amener, d'aller chercher Ali radiyallahu anhu. Fa arsalu ilayhi. On l'a envoyé on a envoyé vers Ali radiyallahu anhu Salama fa'utiya bihi. Puis on a amené Ali, Salama a amené Ali, et dans la version on voit qu'il l'a vraiment amené, il l'a conduit, il ne voyait rien. Donc déjà, il n'était pas préparé, Ali radiyallahu anhu. Il n'est pas venu le matin. Il était malade et ne voyait rien. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, c'est étonnant. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner la bannière pour une conquête à quelqu'un qui ne voit rien? Il est tellement malade qu'il ne voit rien. Et ça, ça te montre le mérite de Ali radiyallahu anhu et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les signes qu'il est un vrai messager d'Allah. Fa'utiya bihi, puis on l'a amené. On a amené Ali radiyallahu anhu. Fabasaqa fi aynay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a craché dans les yeux. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa bi ijma'i ahli sunnah jawazu at-tabarruk bi athari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amma at-tabarruku bi ghayri min ash-shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et les savants de la sunna sont unanimes dans leur livre de croyance pour dire qu'il est permis aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum et à toute autre personne après qui serait concernée de chercher la baraka dans les choses qui tombent du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man fasala an jismi atabarruku biman fasala an jismi, de ce qui se sépare de son corps, le crachat par exemple, le reste de l'eau de ses ablutions, ses cheveux, ses ongles, ses vêtements qu'il a portés, ses chaussures qu'il a portées, toutes ces choses-là, il est permis de prendre, de chercher à prendre la baraka d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ces choses qui se sont séparées du corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une spécificité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui cherche la baraka dans autre chose que ça, que ce soit les vêtements de tel et tel gourou, de telle et telle secte, de telle personne prétendue pieuse et vertueuse, aura commis le polythéisme et aura donné un égal à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y aura un chapitre en détail sur ce point-là. Donc on n'a pas besoin de détailler ici. Aussi, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a gardé de ses cheveux, de ses vêtements, des choses qui viennent de lui, alayhi salatu wa sallam, a le droit de l'utiliser, et jusqu'à nos jours, à condition qu'il soit sûr et certain que cette chose vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette chose qu'on ne peut plus faire maintenant. On ne peut plus prouver, et on ne peut plus dire, voici les cheveux du messager, voici les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que vous entendez dans les musées de Turquie, où dans chaque vitrine on te dit c'est l'épée, le vêtement, les cheveux, etc. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit, on ne peut pas le confirmer, et on ne peut pas non plus le nier. Donc, on ne peut pas aller faire cette chose-là avec ces éléments. C'est quelque chose de très important à connaître dans la croyance. Et celui qui va se frotter à la tombe de telle et telle personne, pourquoi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ne l'ont pas fait avec la tombe de Abu Bakr? J'irai même plus loin. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avec la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il existe aujourd'hui dans des pays des mausolées, des édifices qui ont été bâtis et élevés sur des tombeaux dans lesquels sont enterrés des hommes qui sont déclarés comme étant pieux et vertueux, comme ayant un rang très proche d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On se rend vers ces tombeaux à la recherche de la santé et de la subsistance, car la plupart du shirk dans le monde se fait à cause de ces deux choses, la santé et l'argent. Soit parce qu'on va chercher la guérison, ou alors favoriser la fécondité de la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ou de l'homme, ou alors on veut que le commerce réussisse et on veut que telle et telle personne échoue dans le commerce. Donc, on se rend vers ces tombes. On offre des sacrifices, des bêtes. On dépense de l'argent pour y entrer. On va même jusqu'à dire que celui qui entre dans cet endroit et tourne autour de la tombe de ce pieux est dispensé d'aller à la Mecque accomplir le pèlerinage qui est un des piliers de l'islam. Wal'iyadu billah. Et je citerai des pays quand on arrivera au chapitre qui concerne ces choses-là, inshallah ta'ala. Donc, les compagnons ne l'ont pas fait dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est mort, on ne l'a pas fait. Omar, Uthman et Ali, on ne l'a pas fait. Les salaf salih, les compagnons, les sahaba, ceux qui les ont suivis, on ne l'a jamais fait. Ça n'a jamais été connu, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose de très important, c'est une parenthèse qui a été faite par Shir Salah al-Fawzan dans son commentaire et qui a besoin d'être évoquée constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam basaqa fi aynay, a craché dans ses yeux. Wa da'a lahu, et a invoqué Allah pour lui. Cheikh Abdul Razak al-Badr a dit: wa fi hadha dalil anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yamliku shifa bal yad'u shafi lil marid. Subhanahu wa ta'ala. On voit que le prophète n'a pas la guérison, mais il ne fait qu'invoquer Allah pour le mort. Pardon, pour le malade. Ali radiyallahu anhu se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam les yeux endommagés par la conjonctivite, si bien qu'il ne peut plus rien voir. Et pourtant c'est lui qui va porter la bannière et qui va diriger une armée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam crache dans ses yeux pour que sa salive y entre, invoque Allah pour lui. Qala fa bari'a ka'an lam yakun bihi waja'. Puis il a été guéri comme s'il n'avait jamais eu de maladie. Et dans une fi riwaya, dans une version, qala sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma jannibhu harraha wa bardaha ay al-ayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, a dit: oh Allah, préserve-le de la chaleur et la fraîcheur des yeux. Que s'est-il passé? Ali radiyallahu anhu n'a plus jamais eu de maladie dans ses yeux. Et quand il faisait très froid, il ne sentait pas le froid. Et quand il faisait très chaud, il ne sentait pas le chaud. Radiyallahu ta'ala an Ali ibn Abi Talib wa sahabati ajma'in. Après cela, fa'atahu al-raya. Il lui a remis la bannière. Faqal, il lui a dit: unfud ala rislik, ay imdi ala hudu. Imdi bil hudu. Taqaddam bil hudu. Avance doucement. Hatta tanzila bisahatihim. Ay hatta tasila qurba makanihim. Hada ma'na hatta tanzila bisahatihim. Avance doucement jusqu'à te rapprocher de leur endroit. Donc, on voit ici la quiétude. Et Ali radiyallahu ta'ala a avancé. Il a avancé tout doucement. Il a été accompagné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il est allé à Khaybar. Puis il a eu besoin de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'autre version où on nous parle de cette scène, on nous dit que Ali radiyallahu anhu était en train de marcher en direction de Khaybar. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: unfud ay imdi ay taqaddam, avance. Subhanallah, il ne s'est même pas retourné. Il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans se retourner vers lui. Il s'est arrêté comme ça et a dit: ya Rasulallah. Et le prophète est derrière lui. Il ne l'a pas regardé. Parce que les compagnons sont des gens qui mettent en application les ordres d'Allah au maximum. Et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait besoin de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne s'est pas retourné. Il n'a pas voulu changer de direction, celle de Khaybar, où il a eu l'ordre d'aller. Il a interpellé le messager, alayhi salatu wasalam, pour lui poser une question. Le prophète, sallallahu alayhi wasalam, lui a répondu, et là, il a avancé. Le prophète, sallallahu alayhi wasalam, lui a dit: unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Avance doucement, avec quiétude, jusqu'à arriver proche de leur endroit. Puis il lui a dit: thumma ad'uhum ila al-islam. Puis invite-les à l'islam. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre. Fiha ad-da'watu ila al-islam. Il y a dans cette partie la preuve que l'on doit appeler à l'islam. Et Ali radiyallahu an min ulama sahaba bal min akabir al-ulama, fait partie des grands savants des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Alaysa kullu ahadin muahhalan lid-da'wa. Tout le monde n'est pas apte à appeler à Allah. En premier, c'est Mu'ad. Ici, c'est Ali, radiyallahu anhu. Dans d'autres passages, c'est Abu Musa, l'Ash'ari, radiyallahu anhu. À chaque fois, ce sont les sahaba, parmi les savants, qui vont appeler à Allah. Ce n'est pas un jeu d'appeler à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, ثُمَّ دْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. Appelez à l'islam. Puis, وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ. Et l'islam. Et informe-les de leurs devoirs envers Allah dans l'islam. Informe-les de ce qui leur est obligatoire et qui est un droit d'Allah sur eux dans l'islam. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit aussi le manhaj dans la da'wah, la méthodologie dans le prêche. Dans la da'wah, dans le prêche, il y a deux façons. Al-ijmal wa tafsil, c'est-à-dire le prêche général et le prêche détaillé. Et la base dans la da'wah, comme le disent les savants de la sunna, al-aslu fi da'wah, al-da'wah tu tafsiliya. La da'wah, le prêche en détail. Ma ma'na hadha? Annaka tufassilu awamir Allah wa nawahiya. Subhanahu wa ta'ala. Tu mets en évidence, tu détailles les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses interdits. Tu ne caches pas les ordres d'Allah et ses interdits de peur que l'on te déteste ou que l'on s'éloigne de toi. Ça, c'est la base dans la da'wah. Hada shirk ad-dalil kada, hada sunna ad-dalil kada, hada bid'a ad-dalil kada. Ceci est l'association, ceci est une innovation, ceci est la sunna, la preuve est tel et tel texte. Tu n'as pas le droit de faire telle chose, tu dois faire telle chose à la place, tu dois te corriger. Ça, c'est la base dans la da'wah. Ahyana, les savants disent que parfois, yusta'malu al-ijmal, on utilise la généralité. Mais ce n'est pas la base. La da'wah chez Ahlul Sunnah, c'est le détail. Et chez les gens de la bid'a, c'est la généralité tout le temps. C'est pour ça que si tu dis à n'importe quelle secte, j'invite les gens à adorer Allah et à suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un va-t-il s'opposer à cette parole? Quelqu'un qui adore les tombes va-t-il s'opposer à cette parole? Un shi'i, un chiite, tu lui dis j'invite à Allah et à suivre le messager, il va s'opposer à cette parole? Un soufi, un ash'ari, qui renie les attributs d'Allah en grande partie, va-t-il s'opposer à cette parole? Non, il ne va pas s'opposer. Mais si tu dis, il fait partie de ce tawhid, il fait partie de l'appel à Allah, de mettre en garde contre telle innovation, telle forme de shirk, tu vas tous les voir s'unir contre toi. Parce que ça, c'est da'watu tafsiliya. C'est le prêche, l'appel à Allah en détail. Wa hadha huwa manhajul anbiya wa rusul fi da'wati ila Allah. C'est la méthodologie des prophètes et messagers dans l'appel à Allah. C'est pour cela que dans certains endroits, on va dire aux prêcheurs, ne cite que les grandes lignes. N'est-ce pas? Croyez-moi, je sais de quoi je parle. On va lui dire, ne cite que les grandes lignes. Dis qu'il est bon d'adorer Allah, de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ne parle surtout pas de telle innovation, de tel innovateur. Là se fait la différence entre sahibu sunna wa sahibu al-bid'a, entre celui qui suit la sunna et celui qui suit l'innovation. Celui qui suit la sunna appelle Allah en détail. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Il ne craint nullement le reproche de quiconque voudrait lui adresser un reproche. Car il sait que cette chose-là plaît à Allah. Pourquoi va-t-il se taire? Il sait que cette chose-là plaît à Allah ou déplaît à Allah. Pourquoi va-t-il se taire? Donc, ça c'est le prêche des gens de la sunna. Tu dois les appeler à l'islam. L'appel à l'islam, qu'est-ce que c'est? وَالدَّعْوَةُ إِلَى التَّوْحِيدِ C'est l'appel au tawhid. La islam bila tawhid. Al-islam huwa nafsuhu huwa tawhid. L'islam en lui-même, c'est le monothéisme, c'est l'unicité d'Allah. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ La religion chez Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Celui qui cherche une autre religion que l'islam, on ne l'acceptera pas. Et dans l'au-delà, il fera partie du nombre des perdants. هذا هو التوحيد. Voici l'appel au tawhid. Quand tu les as appelés au tawhid, أخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. Informe-les de leur devoir envers Allah dans cet islam. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى a dit إشرح لهم معنى الإسلام. Enseigne-leur le sens de l'islam. وَبَيِّنْ لَهُمْ Mets-leur en évidence. وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ Et leur devoir envers Allah dans cet islam. مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ Toutes ces adorations et autres. مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ Comme pilier de l'islam. فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ إِلَى الْإِسْلَامِ مُجْمَلًا Il n'est pas suffisant d'appeler à l'islam en général. De laisser cet appel général sans détailler. كما يثرثر به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام. Comme on le voit chez certains prédicateurs aujourd'hui dans cette époque qui est la nôtre, qui ne font qu'appeler à un islam général. Mais ne font qu'appeler à un islam général. On ne nous donne pas de détails. On ne nous enseigne pas quels sont les fondements et les branches de cet islam. Quelles sont les choses aimées chez Allah dans cet islam, détestées chez Allah dans cet islam. وَلَوْ تَسْأَلُهُمْ مَا هُوَ الْإِسْلَامِ Si tu les interroges, qu'est-ce que l'islam? Détaille-moi l'islam, détaille-moi le tawhid, montre-moi les piliers de la foi, montre-moi ce qui est interdit. مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُعَرِّفُوا Ils seront incapables de t'en faire part. فَكَيْفَ يَدْعُونَ إِلَى شَيْءٍ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ Comment invitent-ils les autres à une chose qu'eux-mêmes ignorent? Et ça, c'est ce qu'on reproche à beaucoup de prêcheurs qui prennent le devant de la scène et appellent les gens à quelque chose qu'eux-mêmes ignorent. Au point où il y a des gens qui ont prononcé des paroles gravissimes, gravissimes dans Ad-Din. Ils disent, nous sommes dans une époque où nous avons tellement désobéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il convient à l'un d'entre nous de dire, « Uzran ya Rasulallah, excuse-moi au messager d'Allah. » Wal-iyadu billah. Et cette parole a été dite par Rachid Abu Hudhaifa dans une vidéo, vous le voyez, vous l'entendez. Qu'est-ce qui fait que tu dis de telles paroles? C'est que tu n'as pas appris le tawhid. C'est que tu ne connais pas la sunna, au point où tu dis des paroles de shirk au nom de la da'wah. Et c'est exactement ce qui est interdit par Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi yad'u ila al-islam, la budda an ya'rif al-islam ma huwa. Celui qui invite les gens à l'islam doit absolument savoir ce qu'est l'islam. Il doit en connaître les fondements. Il doit connaître ce qu'est l'islam. وَيُبَيِّنَهُ لِلْمَدْعُوِينَ Et le clarifier pour les gens qui l'appellent à cet islam. وَيَشْرَحَهُ لَهُمْ Et leur expliquer. وَإِلَّا مَا مَعْنَى Et sinon, quel est le sens de ce hadith alors? اُدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ Invite-les à l'islam et informe-les du devoir qu'ils ont envers Allah dans cet islam. Quel est ce devoir? Ce sont les branches, les détails de cet islam. Amma al-islam al-mujmal, quant à l'islam général. Fa kullun yaqulu innama huwa alayhi huwa al-islam. Toute personne dit que ce qu'elle suit c'est l'islam. Al-Sheikh va donner des exemples. Min at-tawa'if ad-dallati wal-munharifati wal-kafira. Tous ces groupes qui sont déviants, qui ont dévié, ou même certains qui ne sont même pas musulmans en vérité. فَكُلُّنْ يُفَسِّرُ الْإِسْلَامَ بِمَذْهَبِ. Chacun explique l'islam à sa façon. وَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ غِطَى. غِطَاءُ كُلِّنْ يَدَّعِيهَا الْآنِ مِنَ الطَّوَائِفِ الْمُنْحَرِفَ وَالضَّالَ وَالْكَافِرَ. Aujourd'hui, l'islam c'est une couverture. L'islam c'est une couverture utilisée par toutes ces personnes qui prétendent prêcher au vrai islam, alors qu'ils sont dans des sectes très égarées. Il va donner des exemples. Il dit Al-Qadiyaniya, Al-Batiniya et d'autres groupes. Al-Quburiya, les adorateurs de tombes. Al-Qadiyaniya, ce sont des gens qui suivent un homme qui est d'Inde. Cet homme-là, il s'appelle Ahmad, à la fin, parce que son nom est très long, et à la fin, Al-Qadiani. Et cet homme-là a prétendu être un messager. Et il a eu un très grand nombre de gens qui l'ont suivi. Wal'iyadu billah. Et jusqu'à notre époque, il a des descendants. Et pour eux, un de ses descendants, c'est le prochain prophète, le prophète de notre époque. Wal'iyadu billah. Ça, c'est du kufr. Ces gens-là ne sont même pas musulmans. Ils ne sont même pas musulmans. Et il a cité aussi d'autres groupes. Tous ces gens-là, si tu leur dis à quoi tu appelles, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? J'appelle à l'islam et j'appelle à suivre le messager. C'est là que tu vois l'importance de détailler dans la da'wah. Et la da'wah, ce n'est pas simplement d'amener les gens et de plaire à tous ou de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Non, la da'wah, c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre, pas ce qu'ils veulent entendre, forcément. Et c'est là où beaucoup de gens ont fait erreur. Et à cause de cette erreur, sont devenus des innovateurs, des gens de la bid'a, qui ont fait du mal à leur personne avant d'en faire à la communauté parmi ceux qui les ont suivis et qui ont adhéré à leur prêche. Ô musulmans, étudiez la sunna de votre messager, sallallahu alayhi wa sallam. كلهم يدعون أن الإسلام هو ما هم عليه. Ils prétendent tous que l'islam est ce qu'ils suivent. Et il dit لكن لو شرح الإسلام. Mais si on explique ce qu'est l'islam en détail, بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له, que c'est l'adoration d'Allah seul et sans associé, والبراءة من المشركين, من الشرك والمشركين, le désaveu du polythéisme et des polythéistes, wa iqamu as-salah wa ita'u az-zakah wa sawm ramadan wa hajju baytillahi al-haram wa ifradullahi bi jami'i anwa'i al-ibadat min adh-dhabh wan-nadhr wal-istighatha wal-isti'adha hina idhin yatabayyanu al-islam as-sahih min al-islam al-muzayyaf. Quand tu vas détailler l'islam, tu vas montrer toutes les branches de l'islam, tous les interdits, toutes les sunna, toutes les innovations, c'est là que le vrai islam va se montrer. C'est pour ça que tu vois même, peut-être que dans certaines mosquées, on laisse un salafi prêcher et on lui dit tu ne cites pas tous ces détails. Alors lui accepte, c'est une faiblesse, c'est une erreur. C'est une erreur. Il doit prêcher à ce qu'Allah a voulu de lui. Peut-être qu'il va accepter par faiblesse. Et donc, on va dire il est bien. Lui, il est salafi, il suit les pieux prédécesseurs et tout ça, etc. Mais il est bien, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne les réprimande pas dans leur innovation. Wal'iyadu billah. Et là, il est en danger en agissant ainsi. Parce que min usul ahli sunnah, parmi les fondements des gens de la sunnah, c'est de se détacher des innovateurs et des innovations. Et à cause de ça, il peut les suivre dans les innovations. Ou alors quelqu'un qui n'est pas suiveur de ce manhaj, de cette méthodologie, il connaît beaucoup de choses, mais ces points-là, il ne les montre pas. Et si toi, tu les montres, ils disent, tu n'as pas de sagesse. Masha'Allah. La sagesse de ne pas appeler les gens au tawhid et de ne pas préserver les gens de la bid'a, c'est une sagesse. C'est la sagesse diabolique, la sagesse d'Iblis. Wal'iyadu billah. À ce moment-là, on va voir ce qu'est le vrai islam. Et à ce moment-là, tu vas subir des nuisances. C'est à ce moment-là que tu auras commencé à entrer dans la da'wah. والحمد لله. فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعوى فقط. L'islam n'est pas seulement une affiliation ou une prétention. Tu dis la ilaha illallah et tu ne mets pas en pratique tout ce qui en découle. Tu peux suivre tel groupe, telle voie, faire tel acte, prononcer telle parole autant que tu veux. Non, non, ça n'a rien à voir avec cela. L'islam a été défini par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « Fawallahi » لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Par Allah, si Allah guide par ta cause un seul homme, c'est bien meilleur pour toi que d'avoir les chamelles rousses. Et humr, c'est le pluriel de hamra, wa hiya al ibil al hamra allati hiya kanat al amwal an nafisa lil arab fi dhaka al zaman. Les chamelles rousses étaient la richesse de l'époque. C'était la richesse de l'époque. Celui qui possédait des chamelles rousses était très riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, par Allah, si Allah guide par ta cause une seule personne, c'est bien meilleur pour toi que d'avoir les chamelles rousses. Ici, on voit deux choses. C'est que l'importance de guider ne serait-ce qu'une seule personne. C'est que à da'wa, on ne cherche pas le nombre. On cherche à plaire à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah yuwaffiqana li dhalik. Wa yusliha qulubana wa yuraqqiqaha li dhalik. Qu'Allah Azza wa Jal corrige nos cœurs et fasse de nous des gens qui ne veulent que Allah. Subhanahu wa ta'ala. Même si tu guides une seule personne, c'est suffisant. C'est suffisant pour avoir un grand mérite. Et c'est meilleur pour toi que la dunya et que les meilleures richesses de la dunya. Qu'est-ce que veut dire ici guider les gens? De la mécréance à l'islam ou autre chose? Deux choses. Guider les gens de la mécréance vers l'islam, c'est meilleur pour toi que le chamel rousse. Et guider les gens de l'islam, de la bid'a vers la sunna, c'est aussi compris par ce hadith et c'est meilleur pour toi que les chamels rousses. Et ça, c'est un grand bien. Et le Cheikh Al-Fawzan a dit « فَكَيْفَ إِذَا اهْتَدَ عَلَى يَدَيْكَ جَمَاعَةً ?» Que dire alors si c'est tout un groupe de gens que tu vas guider? Tout un groupe de gens qui va être guidé par ta cause. Une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Vous voulez qu'on parle en dunya? C'est meilleur que les Mercedes et les Ferrari. Une seule personne, c'est meilleur. Que dire alors si c'est tout un groupe entier de personnes que tu as guidé? Et tu ne sais pas, des fois tu lances une parole, tu es dans un endroit, tu lances une parole, et tu vois que un nombre de personnes a pris ta parole. A Cheikh Abdelrazak al-Badr, pendant les nuits de Ramadan, à Médine, est en train de marcher, il raconte qu'il est en train de marcher, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des jeunes en train de perdre leur temps au lieu d'aller prier la nuit. Ils sont distraits par des futilités mondaines, peut-être même par des actes de désobéissance. Pris par la tristesse et la compassion pour ces jeunes, le cheikh est allé les voir. Il a interpellé l'un d'entre eux et lui a prodigué le conseil. Suite à quoi il lui a dit « سَأُعَلِّمُكَ كَلِمَةً إِحْفَظْهَا يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا » Je vais t'enseigner un mot, des mots qu'Allah, par lesquels Allah va te donner utilité et profit. Il lui a dit, ta'allam wa qul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna ou anni. Oh Allah, tu es expiateur. Tu aimes expier, tu aimes effacer les fautes. Efface donc les miennes. Il lui a enseigné cette parole. Cheikh Abdelrazak dit des années après, alors qu'il était en train de donner une conférence, après la conférence, un jeune est venu avec l'apparence de la sunna, avec un visage rayonnant, et il lui a dit « Oh Cheikh, tu te souviens de moi ?» Le Cheikh lui dit « Pas du tout. » Il lui dit « Un jour, tu m'as interpellé la nuit et tu m'as donné un conseil dans lequel tu m'as enseigné telle et telle parole. » Cette nuit-là, j'ai prononcé cette parole, j'ai invoqué Allah sincèrement par ces mots. Et aujourd'hui, je suis comme tu me vois et je travaille pour ce qu'on appelle Hay'atul Amri bil Ma'ruf wal Nahy 'anil Munkar, hein, ceux qui s'occupent un peu de corriger les fautes qui se passent et appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis une parole et des années après, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, le yéménite, rahimahullah, a dit, peut-être que tu vas donner une parole avec sincérité et cette parole va atteindre des endroits que tu ne t'imaginais même pas. Elle va pénétrer les cœurs des gens, tu ne sais pas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Fawzan le cite ici dans son livre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a passé la majeure partie de sa vie en prison, mais il était sincère, bi'ilnillah, ce qu'on espère. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais il apparaît les signes de quelqu'un qui est sincère. Après sa mort, donc pendant son vivant, il n'était pas très connu. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a commencé à publier ses livres et à les envoyer. Et dans des contrées les plus énoyées, tu dis Ibn Taymiyyah, les gens connaissent. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, était connu même dans des villages éloignés d'Afrique, où des gens sont allés pour donner des sadaqas, des aumônes à des pauvres, et une vieille femme a dit, remettez mon salam, saluez Abdul Aziz ibn Baz. Allahu Akbar, ce que la sincérité fait, elle transperce les murs. C'est une image que je vous fais. Tayyib. Une seule personne, si Allah la guide par toi, regarde ce que tu as comme mérite. Que dire alors si c'est complètement un groupe qui a été guidé par ta cause? Donc, c'est un grand bien et on voit les mérites de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce hadith plusieurs points, parmi lesquels qu'il est légiféré d'envoyer des prêcheurs. D'envoyer des prêcheurs, des gens qui sont connaisseurs, et de ne pas leur donner un manhaj différent, une méthodologie différente de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne pas dire, je prêche 40 jours, je prêche 4 mois, je prêche 3 jours, je prêche 10 jours, je vais au Pakistan, je vais à tel endroit, et la preuve en est, le prophète a envoyé Mu'adh, le prophète a envoyé Ali ibn Abi Talib dans ces hadiths-là. Ça, c'est une preuve contre la personne qui prononce ces paroles. Ali est un grand savant des sahaba, radiyallahu anhu. Mu'adh est le plus savant des sahaba dans le halal et dans le haram. Ils ont commencé à appeler les gens au tawhid. Ils ont détaillé. Alors que ces gens-là disent, ne les faites pas fuir, ne les faites pas fuir. Au nom de la hikma, de la sagesse, il ne faut pas dire aux gens que telle chose est interdite et que telle chose est prescrite. Alors que c'est faux, la sagesse, c'est de savoir comment le dire, c'est pas de ne pas le dire. C'est là la nuance. La sagesse est de savoir comment transmettre l'information. Ce n'est pas de cacher l'information. Voyez. Deuxième point. On va en citer quelques-uns. Que le gouverneur, le détenteur de l'autorité, va tracer une méthodologie au savant qu'il envoie pour prêcher. Il l'envoie et lui dit, tu vas à tel endroit, telle personne va se présenter à toi, commence par telle chose, s'ils acceptent, informe-les de telle chose, s'ils acceptent, etc. Parmi les points que l'on tire de ce hadith, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-mahabba, l'amour. Allah est qualifié par l'amour. Allah aime ses serviteurs pieux et croyants. Plus ils sont pieux et croyants, plus il les aime, subhanahu wa ta'ala. Plus ils désobéissent, moins ils les aiment. Tabaraka wa ta'ala. Également, il y a un miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car on voit qu'il dit, je vais donner la bannière demain à un homme aimé par Allah et par son messager, à qui Allah va donner la victoire. Et le lendemain, Allah a donné la victoire, subhanahu wa ta'ala, à cet homme qui est Ali ibn Abi Talib. Parmi les points que l'on tire de ce hadith, Fadlu Ali radiyallahu an, le mérite de Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, raddan ala al-khawarij wa al-nawasib, en réponse aux khawarij qui eux l'ont taxé de mécréant. Vous vous rendez compte, les khawarij ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah l'aime. Subhanallah, Allahu Akbar. Ils l'ont combattu et Ali les a éradiqués. Il les a tous tués. À l'exception de quelques personnes, parmi lesquelles Abdurrahman ibn Muljim, qui deviendra l'assassin de Ali ibn Abi Talib. Et il va aller jusqu'à Koufa en Irak pour le poignarder. Wal'iyadu billah. Et ils se sont mis tous d'accord, ces trois personnes. L'un s'est porté garant d'assassiner Ali, l'autre s'est porté garant d'assassiner Muawiyah, qui était au Sham, dans la région du Sham, et l'autre qui s'est porté garant d'assassiner Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui était en Égypte. Et ils se sont mis d'accord le 27 du mois de Ramadan. Et ils sont allés là-bas les assassiner pendant la prière du Fajr ou avant la prière du Fajr. C'est comme ça que sont les Khawarij. Ils pensent que pendant Ramadan, ils se rapprochent encore plus d'Allah en commettant de tels actes. Wal'iyadu billah. Et Ramadan est très proche et on a vu ce qu'on avait. Tayyib. Aussi, on voit que chez Ahlus Sunnah, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu est aimé car les Shia disent que les gens de la Sunna détestent les proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est connu chez les innovateurs. Yarhamukallah. Lorsque les gens de la Sunna ont dit aux chiites, n'adorez pas Ali, n'adorez pas al-Hassan, al-Hussein et Fatima, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces gens-là n'aiment pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens de la Sunna ont dit aux soufis, ne demandez pas la baraka dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont répondu, ces gens-là n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens de la Sunna ont dit aux soufis, n'adorez pas ces gens enterrés dans les tombes. Ils ont dit, ces gens-là n'aiment pas les gens pieux. Ça c'est connu. Alors que toutes ces paroles sont fausses. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a eu 7 enfants. Comment est-ce qu'il les a appelés? Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, ceux qui sont adorés par les chiites. Abdullah, un fils du Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wassalam, qui est mort bébé. Et le septième, Abdul Aziz. Il n'y a que Abdul Aziz, parmi ses 7 enfants, qui n'a pas un nom des proches du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Quelqu'un qui déteste les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner à ses enfants qui sont peut-être pour lui les êtres les plus chers les noms des gens qu'il a détestés. Subhanallah. Abdul Razak al-Badr hafidhahallah a croisé un homme et cet homme-là a dénigré Muhammad ibn Abdul Wahhab et a dit il n'aime pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Razak lui a dit comment, il lui a dit as-tu des enfants? L'homme s'est étonné, a dit oui. Cheikh Abdul Razak lui a dit, comment tu les as appelés? Il a dit, un tel, aucun nom des proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, que dis-tu de quelqu'un qui a appelé ses enfants Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, Ibrahim, Abdullah? Il lui a dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a donné ses noms à ses enfants. Et sa kunya, c'est Abu al-Hussein. Al-Hussein, c'est le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'ils détestent Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, parce qu'il a dit à ces gens-là, ne les adorez pas. C'est ça qui les a gênés. Quand il est entré dans la da'wa tafsiliya, le prêche en détail, ils les ont détestés. S'il s'était contenté de da'wa al-mujmala, du prêche général et global, en disant, nous aimons les compagnons, et nous voulons suivre les compagnons, les chiites ne les auraient jamais critiqués. Mais dès qu'ils ont dit, fais partie de l'amour des compagnons en détail, de ne pas les adorer, parmi lesquels Ali, Fatima, etc., là le prêche en détail fait du mal aux gens de l'innovation. Et c'est là que les gens de l'innovation s'unissent tous, alors qu'ils sont complètement désunis, pour un seul but, éradiquer les gens du vrai. Subhanallah. Allahu Akbar. Donc voici quelques points que l'on tire de ce noble hadith. Et sachez qu'ils sont plus nombreux. Mais Inch'Allah, on espère qu'il y a dans ce qu'on a dit des enseignements riches. On s'arrête ici, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.